Sandrine, comment ça va?
Salut Katia, ça va? Ça va?
Ça va, hein, ça devient très lourd, hein, toutes ces journées qui se ressemblent toutes.
Oui et non, parce qu'elles se ressemblent toutes et en même temps, quand on est occupé à travailler, ben on s'habitue, quoi, on s'y fait, on est bien obligé.
Ouais, on en tire un petit parti, c'est-à-dire qu'on réalise tout d'un coup que le télétravail, c'est peut-être pas mal, mais mm-hmm. c'est peut-être pas l'idéal.
Exact.
Surtout pour les femmes qui ont une charge mentale parfois supérieure, puisque mm-hmm. pendant qu'elles travaillent, elles sont obligées de veiller à autre chose. C'est vrai, tu as raison. Et puis, il y a tous les à côté de cette vie très longue, de ces heures très longues et cette façon de réfléchir à comment va le monde et que faudra-t-il faire après le Covid.
Oui, c'est la grande question.
Chacun déjà interroge le monde d'aujourd'hui et les choix que l'on va faire naître. Mm-hmm. L'heure donc n'est plus au retour en arrière, mais plus que jamais à l'acceptation par le plus grand nombre, à changer nos modes de vie de façon radicale.
Oui.
C'est comme ça qu'on pourrait introduire le sujet aujourd'hui.
C'est ça, c'est adaptation radicale et changement radical.
Oui, parce qu'il y aura un après cette crise économique et sociétale. L'action reste donc la seule solution pour se préparer à en sortir. Et toi, quels sont les changements amorcés et qui sont là, d'après toi, pour durer?
Difficile à dire parce qu'on ne peut pas encore prédire les conséquences économiques de la crise. Elle est sanitaire, elle est sociale. Aujourd'hui, quand j'entends, heureusement je ne regarde pas les chaînes info en boucle toute la journée, mais quand je lis des rapports, quand j'entends ce qui se passe, et on n'a absolument pas de vision réellement. Mais comme tu le disais tout à l'heure, des choses comme le rapport au travail, comme nos relations personnelles et professionnelles, évidemment, elles sont réévaluées. Elles sont réévaluées au fur et à mesure selon l'ampleur des dommages. Donc, ça veut dire, pour nous, redéfinir tous nos systèmes de valeurs. Ça veut dire, comme je le disais, surdévelopper notre capacité d'adaptation. Ça veut dire aussi avoir confiance. Ouais. Oui, étrangement, on voit toute cette solidarité, donc ce rapport, on a envie de faire confiance, envie d'avoir confiance. Et en même temps, on a très peur parce qu'on n'a pas, on a absolument pas confiance dans l'avenir, on veut avoir confiance. Et puis,
confiance en la vie, confiance dans nos gouvernements qui ont pris des décisions assez radicales comme celle d'avoir fait cesser l'économie.
Oui, l'économie parce que
le monde économique.
Voilà, parce qu'on leur a reproché de favoriser l'économie au détriment de l'humain. Donc, au vu des circonstances, l'adaptation radicale, ça a été de fermer l'économie, les vannes de l'économie pour privilégier l'humain. Donc, ça veut dire privilégier aussi le lien humain qu'on ressent aujourd'hui très très fort.
Oui, il y a beaucoup de solidarité. Hein.
Mm-hmm. Et je pense que c'est là pour durer. En tout cas, notre rapport entre nous, malgré la distance et les gestes barrières, c'est le lien humain qui est remis vraiment au centre, au cœur de nos essentiels. Mm. Et puis la proximité aussi.
Bien sûr.
La proximité. Mm-hmm.
La transparence, l'engagement. Contre versus l'économie de consommation uniquement.
C'est ça. C'est une économie que l'on veut justement basée sur l'humain. Donc ça veut dire que les gouvernements doivent d'abord penser à nous, à notre santé, à nos vies, avant de repenser l'économie. Même si il faut quand même que l'économie continue parce que c'est ce qui nous fait vivre au quotidien. C'est ce qui fait qu'on a un emploi. C'est ce qui fait que qu'on peut continuer de
accéder à des biens, à des services.
C'est ça, absolument. Même si on parle d'un désir de dépossession, c'est-à-dire la possession, accéder aux biens, n'est plus une priorité. Donc c'est déjà quelque chose que la génération Z vit complètement naturellement. Elle a plutôt un besoin d'accéder à des expériences, mais plus à des possessions. Et c'est quelque chose qui revient et qui reviendra en boucle, cette idée qu'on n'a plus envie maintenant. Posséder, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait.
Bien sûr, c'est des retours aux essentiels, hein, mais on sait que la consommation, le consommateur est perdu dans un système qui dépasse, que le rôle des marques maintenant est d'aider les consommateurs à s'aligner à des valeurs.
Oui, complètement, à s'aligner à des valeurs, à des valeurs que on a perdues quelque part. Donc et il y a quelque chose sur quoi je voulais revenir. J'ai parlé de proximité, justement. Pour moi, la proximité fait partie aussi des valeurs. C'est-à-dire qu'on a tellement délocalisé les choses, on a tellement externalisé qu'aujourd'hui, déjà, nos déplacements sont réduits à leur plus courte échelle, mais là, la proximité, ça veut dire aussi la relocalisation, repenser notre économie de l'intérieur. Donc ça, c'est important.
Bien sûr, de grands noms de la mode, en particulier ce créateur italien, Armani. Voilà, Armani a expliqué que ce n'était plus possible et qu'à vestiaire où il y avait 200 pièces au lieu de 4 vestes, 200 vestes au lieu de 4 vestes, c'était complètement ridicule. Et qu'il fallait arrêter aussi de produire en toute saison, en plein hiver. C'est-à-dire, pardon, qu'il fallait arrêter...
De produire l'été en hiver et l'hiver en été, Et revenir à des circuits plus courts. Donc aussi à la proximité, parce que quand on fait partir ça dans des pays très, très loin de nous, ça veut dire aussi, encore une fois, parce qu'il faut l'anticiper, la trace carbone, etc. Et puis ça veut dire aussi, on a toujours vécu, avant de passer à 6 collections par an, jusqu'à 8, on était à 4, quoi.
Ouais.
Voire à 2.
Bien sûr. Ce qui était la raison même, et toutes ces mauvaises pratiques nous font nous tromper, puisqu'on a même réussi à faire délocaliser des biens de nécessité comme les médicaments, comme les masques, qui sont absolument utiles en ce moment.
Les thermomètres.
Les thermomètres, les respirateurs, pareil, qui pourraient aider justement à endiguer cette épidémie. Enfin, voilà, même le évident nous a échappé.
Oui, complètement. Donc c'est pour ça on repense nos essentiels et je pense que on passera à un retour à pour le dire simplement à du minimalisme. Mais c'est même pas du minimalisme, c'est juste de la raison, une consommation juste, tu vois.
On en a besoin. Et puis le respect des ressources de la planète.
Totalement, parce que ça, on a beau dire, mais là, on est en stand-by. Mais ça veut dire que tout ce qui est sustainability, tout ce qui est le durable, le repenser les chaînes de production, du sourcing, jusque justement au retail et à la distribution, et aux ressources qui sont amenuisées et qui ne sont pas éternelles, eh bien, ça veut dire continuer de garder cette volonté d'être sustainable du début à la fin de la chaîne.
Il va falloir s'entraider, respecter la planète, se protéger et la protéger, cette fameuse planète.
Oui, et puis surtout, produire du sens, comme tu disais avec Armani, ça veut dire, on est tombé sur la tête, mais là, redressons-nous, quoi, relevons-nous et revenons à la raison.
Et alors, justement, ce travail... Ce travail, ce télétravail, qu'est-ce que ça va donner, d'après toi? Est-ce que des entreprises ne vont pas en profiter pour mettre ça en place beaucoup plus rapidement que prévu? Parce que j'imagine que c'était déjà dans le calendrier de certaines entreprises pour éviter, pour faire des coupes budgétaires, pour ne pas avoir de bureaux, etc.
Alors, je dois dire que le télétravail, c'est quelque chose qui marche très bien dans d'autres pays d'Europe. les pays d'Europe du Nord, ça marche bien aux États-Unis, en Australie, enfin bref, dans des tas de
grands. Dans les pays anglo-saxons, mais je te rappelle que dans les pays anglo-saxons, les appartements sont beaucoup plus grands. La maison, c'est un espace où on estime pas que 10 mètres carrés, ça suffit pour un étudiant.
Alors, ça dépend. C'est-à-dire que si tu es aux États-Unis, évidemment, tout est amplifié, l'espace, etc. Mais quand tu vis en Angleterre, par exemple, où il y a beaucoup de télétravail déjà, on sait que en Angleterre, les appartements sont grands, mais on a des colocs. C'est très difficile de vivre parce que tout coûte extrêmement cher au niveau des locations, donc on a beaucoup de colocataires, de colocations. En revanche, en France, pour revenir à nous, on est très très frileux par rapport à ce télétravail. C'est quelque chose que les entreprises ont du mal à mettre en place parce que elles imaginent que parce que tu es sur ton lieu de travail, tu seras plus productif et on n'a pas confiance en toi quand tu es chez toi. Genre, en fait, on va buller toute la journée. Sauf que on a quand même prouvé qu'on était beaucoup plus efficace en travaillant de chez soi. Par expérience, pour avoir beaucoup bossé avec des boîtes anglo-saxonnes, et moi je travaillais essentiellement depuis 10 ans en télétravail et avec beaucoup de voyages et avec des équipes à l'international sans jamais avoir aucun souci en étant par expérience beaucoup plus productif qu'en travaillant dans un bureau. Donc aujourd'hui, ça veut dire que on va accélérer le processus de télétravail, certainement. En tout cas, il était dans le règlement des entreprises, c'était un jour de télétravail auquel le salarié avait droit. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va passer à 3 jours de télétravail et 2 jours en entreprise. Mm-hmm. Voilà.
Pour s'immerger, pour retrouver le contact avec ses collègues et puis pour recréer du lien avec l'entreprise.
C'est ça. Donc, une autre organisation, ça c'est certain. Et puis, de toute façon, étant donné que on sera quand même encore en semi-liberté, le rapport à l'autre, ça va être difficile. On ne pourra pas être confiné, on ne pourra pas être 10 dans un open space.
Ouais. Et là, oui, il y aura des contraintes liées à la distanciation sociale
de
longue durée.
De longue durée. Là, on en a jusqu'en 2021. Donc, ouais. Enfin,
ça va engendrer un autre rapport à l'espace, un autre rapport aux autres, et du temps aussi, hein, grâce à la multiplication des services fournis par les applications, les micro-entreprises qui vont s'inscrire dans le quotidien de chacun.
Oui, 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 et tous les microservices, donc tout ce qui est digital, évidemment, là, on voit l'explosion du digital, on n'apprend rien à personne, parce que je vois que même les boomers, nos parents qui, pour certains, sont réfractaires, eh bien là, ils ont embrassé le digital, voilà, comme jamais. J'ai jamais vu ma mère aussi accro à ses apps, alors que il y a un mois de ça, mais il n'en était pas question. Et puis, ça veut dire justement développer de nouveaux liens sociaux. Tout ce qui était digital, déjà au niveau commerce, ça va se développer parce qu'on y est bien contraint. Mais pas seulement, c'est-à-dire que là, on était tous en train, nos générations un peu plus âgées, de se dire que Instagram, Facebook, surtout Instagram, tout ça était superflu. On n'en pouvait plus et on en avait assez. Sauf que là, maintenant, Instagram reprend un rôle de lien, de connecteur social et non plus un lien uniquement commercial ou simplement du selfie nation. On sort de tout ça et ça, c'est extra. Et justement, à travers le digital, on va pouvoir développer des micro-services qui vont s'inscrire dans le quotidien. Et pour revenir justement à ce que tu me disais par rapport au télétravail, pas seulement ça, c'est-à-dire nos espaces vitaux sont en train de devenir aussi multifonctionnels. C'est-à-dire que maintenant on va avoir envie, peut-être, quand on a la possibilité, de créer des coins pour nos diverses activités. C'est-à-dire, aujourd'hui tu fais du yoga dans ta salle de bain, tu télétravailles dans ton salon, tu fais ton cours de cuisine dans ta cuisine. Donc du coup, ça veut dire que tu tu repenses ton espace pour le rendre plus confortable aussi et pour le rendre multifonctionnel.
Oui, tout a changé. Effectivement, on s'aperçoit des écueils, des erreurs d'aménagement dans notre appartement. On s'aperçoit aussi quand on habite un appartement et qu'il y a une cour qui est laissée très minérale, qu'on pourrait construire un petit bout de jardin, qu'on pourrait profiter, mettre une table, pouvoir bénéficier pendant une heure et demie de ça régulièrement en s'inscrivant dans un planning, comme ça se fait déjà dans les pays du Nord, encore une fois, dans les nouveaux... à Pantin, par exemple, il y a de nouvelles bâtisses, il y a de nouveaux bâtiments, et il y a cet esprit, cette réflexion sur comment vivre en commun, comment partager l'espace commun, pas qu'il soit un vague... comment je pourrais dire, un lobby d'hôtel vide.
C'est ça, et puis c'est aussi, effectivement, comme tu le disais, avant, on se disait, bon, ok, on traînait à mettre un peu de vie, un peu de verre, une table et deux chaises en se disant, oh non, c'est trop exigu, de toute façon, j'ai le café du coin, j'aime aller en terrasse, etc. Mais là, comme nos déplacements dans les lieux publics seront réduits aussi, on aura des contraintes, du coup, son balcon, on a envie de le fleurir, on a envie, voilà, c'est ça. Donc de remettre un petit peu aussi du vert chez soi, encore plus qu'avant, et de rendre son intérieur de plus en plus confortable, à l'image de ce que l'on est et de ce que l'on a envie d'y faire. Et on prendra justement plus de temps aussi pour le faire.
Exactement ce qui se passe dans les pays nordiques, où la distanciation sociale, du fait de la météorologie, les longs hivers... passent loin des autres, eh bien, en général, dès qu'arrivent les premiers rayons de soleil, effectivement, on sort les plantes, on fait attention à son intérieur parce qu'on sait qu'on va y passer de nombreuses heures, on repeint, on fait très attention, il y a beaucoup de blanc, beaucoup de jolies couleurs, mais des couleurs apaisantes, etc.
On comprend mieux maintenant pourquoi aussi, pourquoi cette déco, pourquoi ces modes de vie, justement parce que depuis des siècles, eux doivent penser leur vie dans des intérieurs et au contraire, effectivement, des couleurs chaleureuses, des couleurs apaisantes, parce qu'ils y passent beaucoup de temps, donc forcément.
Et oui, donc en particulier, qu'est-ce qui va se passer dans la mode, est-ce qu'on va utiliser d'autres choses, d'autres matériaux, comment on va repenser la mode?
Alors, c'est un petit peu difficile aujourd'hui de dire comment on va repenser la mode. C'est même très, très, je dirais, très prétentieux de dire comment on va repenser la mode parce qu'on n'en sait rien. Très sincèrement, ou si on a des pistes, on sera bien. On essaye encore de pouvoir anticiper au mieux, et donc je risquerais de dire des bêtises. En revanche, l'économie circulaire, évidemment, doit être au cœur de nos activités. L'économie circulaire. C'est-à-dire tout ce qui est depuis le sourcing des matières, la conception, le travail, c'est que tout soit transparent, tout soit traçable, tout soit recyclable, tout soit... on va parler de zéro gaspillage ou de minimum de gaspillage. On va parler aussi de collaboration entre des entreprises qui sont peut-être au départ concurrentes, mais qui peuvent être complémentaires. Donc, partager, ça c'est très important. Ça veut dire aussi intégrer la durabilité dans toutes les stratégies. On va éviter tout ce qui est surproduction. Donc, dans l'économie circulaire, on va intégrer aussi les déchets. Les déchets, ça veut dire attention, quand je te dis déchets, c'est pas ce qu'il y a dans tes poubelles, hein. Parce que souvent, ça fait un peu peur quand on dit ça, mais les déchets, ça veut dire aussi les chutes de tissus. Ça veut dire, voilà, ça veut dire des tissus qui n'ont pas été utilisés pendant une saison que l'on va réutiliser. Ça veut dire des collections, des stocks que l'on va pouvoir retravailler. C'est ça aussi les déchets, je dirais. Donc, voilà, donc ça veut dire qu'ils deviendront aussi de plus en plus sophistiqués. Et puis on va pas se contenter de les recycler. C'est ça aussi l'idée, c'est de les régénérer, de les transformer.
Upcycling, le fameux upcycling.
Voilà, mais là plus que jamais, ça prend vraiment du sens.
Oui. Et puis il y a aussi cette nouvelle vision de la mode et des modes de vie en particulier parce que les marques se sont emparées de je suis à vos côtés, mais pas seulement à travers un produit ou un service, mais sur des thématiques, sur un mode sociétal.
Oui, complètement. C'est ça. C'est-à-dire que les marques aujourd'hui, s'il y a une chose que je peux affirmer, parce que c'est une conviction aussi pour moi, c'est de dire je suis près de vous. Je ne suis pas seulement un produit, je ne suis pas seulement un service, mais au contraire, elles peuvent endosser le rôle de, on parlait de connecteur tout à l'heure, de super connecteur. Et à travers les réseaux sociaux, en apportant, en co-créant avec leurs consommateurs et leur communauté, en leur apportant des programmes éducatifs aussi à travers, justement, aujourd'hui, tu as plein de marques qui font du do-it-yourself ensemble,
oui.
Voilà, partager, parce que justement, les réseaux sociaux deviennent une source émotionnelle augmentée. On peut vraiment, aujourd'hui, un créateur, il peut venir en live et te parler, et t'expliquer, te raconter, te donner aussi ses clés pour être plus créatif. Donc c'est important de s'engager sur des thématiques qui sont plus, à chacun son échelle, bien entendu, pour une marque. Quelle est ma raison d'être, mais quelle est ma raison de faire? Tu vois? Donc,
oui,
évidemment.
Oui.
Et comme tu le disais, en plaçant l'humain au centre.
Ouais. C'est bien, c'est pas mal, hein. J'ai pensé parfois que c'était un peu cynique, en tout cas qu'il y avait du calcul en se disant les gens qui nous tendent la main quand on va mal, on s'en souvient, donc les marques qui nous tendent la main et qui nous donnent quelque chose ou qui donnent quelque chose à ceux qui en ont besoin, ça nous touche.
Mais bien sûr, et puis arrêtons d'être cyniques. Ok, elle aussi, pensons qu'il y a des milliers de gens aujourd'hui qui ont perdu leur emploi ou qui sont au chômage partiel et que ces entreprises aussi, jusqu'à présent, elles ont été utiles pour nous de quelque manière que ce soit, futiles mais utiles ou utiles et futiles. Mais en attendant, si elles nous donnent quelque chose aujourd'hui et si elles sont capables de nous donner en si peu de temps et de transformer leur chaîne de valeur, de transformer leur activité pour nous apporter quelque chose, accueillons au lieu de d'être critique, je pense, de toute façon. On n'est plus à l'heure de la critique aujourd'hui. Après, ceux qui le font de manière éhontée et de manière extrêmement forcée, c'est bien dommage. Mais ceux-là, on saura aussi les reconnaître. Enfin, du moins, je pense. Voilà.
On ne dira pas de nom. Merci, c'est toujours hyper intéressant tes éclairages, j'adore. On se revoit très vite pour
La semaine prochaine.
Bien sûr, sur le monde tel qu'il vient.
Ok, alors à la semaine prochaine, via, attention, mais on est, attention, on ne se voit pas, on s'entend.
Non, c'est vrai. Eh bon, on a l'impression, hein.
Ouais.
J'ai toujours adoré la radio et... Le podcast, c'est vraiment l'enfant de la radio et c'est merveilleux.
Ah, mais totalement. Ouais. Partageons.
À bientôt.
Salut.